Michel Zévaco. Les Pardaillans, tome 10. La fin de Fausta. Chapitre 1. Suite de l'algarade de la rue de la Cossonnerie. La rue de la Cossonnerie allait de la rue Saint-Denis à la rue du Marché aux Poirées, en pleine halle. De ce côté se tenait une troupe d'archers. Landry Coquenard n'avait pas exagéré en disant qu'ils étaient bien une cinquantaine, commandé par le prévôt en personne. Du côté de la rue Saint-Denis et s'étendant à droite et à gauche dans cette rue, une troupe aussi nombreuse, aussi formidable, barrait le passage. À cet endroit de la rue Saint-Denis et dans toute la rue de la Cossonnerie, la circulation se trouvait interrompue. Et naturellement, du côté de la rue du Marché aux Poirées, comme du côté de la rue Saint-Denis, une foule compacte de badauds, enragés de curiosité, s'écraser derrière les archers, échanger des lazis et d'énormes plaisanteries, et, sans savoir de quoi et de qui il s'agissait, se rangeant d'instinct du côté où elle voyait la force, faisait entendre déjà de sourdes menaces. Ce n'était pas tout. Entre les deux troupes d'archers, un grand espace vide avait été laissé. Et cet espace était occupé par Concini et par ses ordinaires. Ils étaient bien une vingtaine, à la tête desquels se trouvaient leur capitaine, Rospignac, et ses lieutenants, Roquetaille, Longval, Hénoz et Louvignac. De plus, une trentaine de ces individus à mine patibulaire, dont Pardaillan n'avait pas remarqué la présence dans la rue, s'étaient massés derrière les ordinaires à qui ils obéissaient. Sans compter Concini et les chefs, il y avait là au moins 50 hommes armés jusqu'aux dents. Enfin, Dalbaran se tenait près de Concini. Lui, il n'avait avec lui que sa troupe ordinaire d'une dizaine d'hommes. Il se contentait de surveiller et paraissait avoir laissé à Concini le soin de diriger les opérations. En somme, près de 200 hommes assiégeaient la maison, car on pouvait croire qu'il allait s'agir d'un siège en règle. Il va sans dire que toutes les fenêtres donnant sur la rue étaient grandes ouvertes et qu'une foule de curieux occupait ces fenêtres. Ceux-là, aussi stupidement féroces que les badauds de la rue, se montraient hostiles sans savoir pourquoi. Chose étrange que les trois assiégés remarquèrent aussitôt, personne ne se montrait aux fenêtres de la maison où ils se trouvaient. Toutes ces fenêtres demeuraient fermées. Pardaillan donna cette explication qui paraissait plausible. Ils ont dû faire sortir tous les locataires de la maison. C'est probable, opina Valvert. Et il ajouta, sans se montrer autrement ému, peut-être ont-ils l'intention de nous faire sauter. À moins qu'ils ne nous fassent griller comme de vulgaires pourceaux, insinua Landry Coquenard d'un air lugubre. Au fait, interrogea Pardaillan, que sais-tu, toi?
Pour ainsi dire rien, monsieur, fit Landry Coquenard d'une voix lamentable.
Et il renseigna.
Je rentrais au logis. À la pointe Saint-Eustache, j'ai aperçu le prévôt et ses archers qui venaient du côté de la croix du Trahoir. Je n'ai pas prêté grande attention à eux et j'ai poursuivi mon chemin. Au bout d'un certain temps, je me suis aperçu qu'ils suivaient, derrière moi, la même direction que moi. Et, brute stupide que je suis, cela ne m'a pas donné l'éveil. Je suis arrivé rue de la Cossonnerie. Machinalement, je me suis retourné pour voir si les archers me suivaient toujours. Et j'ai vu qu'ils occupaient la rue du Marché aux Poirées, barrant l'entrée de notre rue. Cela m'a étonné et vaguement inquiété. Je me suis avancé du côté de la rue Saint-Denis et j'ai aperçu d'autres archers qui barraient le chemin de ce côté-là. Je me trouvais prise entre ces deux troupes. J'ai commencé à avoir peur, mais je n'ai toujours pas flairé la manigance. Et s'emportant contre lui-même, que tous les diables cornus de l'enfer m'emportent et me fassent rôtir sur leur grille jusqu'à la consommation des siècles.
Continue, dit froidement Pardaillan, et abrège.
À ce moment, reprit Landry Coquenard, une dizaine d'archers sont entrés dans notre rue. Sur ce ton amène que vous leur connaissez, ils ont invité les habitants de la rue à verrouiller leurs portes extérieures et à ne plus bouger de chez eux. Quant à ceux qui disaient qu'ils ne demeuraient pas dans la rue, on les a sommés de déguerpir au plus vite. Ce qu'ils ne se sont pas fait dire deux fois, je vous en réponds.
En sorte, interrompit Pardaillan en le fixant de son regard perçant, de sorte que tu aurais pu, à ce moment-là, te retirer si tu avais voulu.
Très facilement, monsieur.
Pourquoi ne l'as-tu pas fait?
parce que, à ce moment, les estafiers de M. Conchin y sont arrivés. En les voyant, j'ai enfin compris, trop tard hélas, de quoi ils retournaient. C'était plus que jamais le moment de détaler, insista Pardaillan, car enfin, tu es fixé sur le sort que te réserve ton ancien maître s'il met la main sur toi. Telle a été ma première pensée, en effet. Mais je me suis dit, Monsieur le comte est sûrement là-haut. Peut-être ne se doute-t-il pas de ce qui se passe dans la rue. Il peut descendre d'un moment à l'autre, et alors il est perdu. Il faut que j'aille l'avertir. Et je suis entré, monsieur. Et vous avez vu qu'il était temps pour vous. Vous alliez vous jeter dans la gueule du loup. Et je vous assure, monsieur le chevalier, que j'ai été douloureusement surpris quand j'ai vu que vous étiez avec monsieur le comte. Le digne Landry Coquenard avait débité cela avec simplicité. Il ne paraissait pas se douter le moins du monde qu'il venait d'accomplir une action héroïque vraiment admirable. Audet de Valvert, profondément touché de cette marque d'attachement, se raidissait pour ne pas laisser voir son émotion. Pardaillan le considéra un instant en silence, et d'une voix très douce, il prononça « Tu es un brave, Landry !»« Non, monsieur, répondit piteusement Landry Coquenard, je suis un poltron. Très poltron, même. Je vous assure, monsieur, que ce n'est jamais moi qui cherche la bataille. » Et si c'est elle qui me cherche, je n'hésite pas à prendre mes jambes à mon cou, sans la moindre vergogne, si je peux le faire. « Et si tu ne peux pas prendre la fuite ?» demanda Pardaillan, en souriant malgré lui. « Alors, monsieur, fit Landry Coquenard, d'un air de résolution féroce, je défends ma peau, et rudement, je vous en réponds. » Et naïvement, « Par le ventre de Dieu, je tiens à ma peau, moi !»« Eh bien, conclut froidement Pardaillan, « tâchons de défendre notre peau du mieux que nous pourrons, puisque nous sommes menacés tous les trois. » Il observa encore un moment par la fenêtre. Les archers, aux deux bouts de la rue, demeuraient dans l'attente. Conchini et ses hommes, devant la porte, n'agissaient pas. Conchini s'entretenait, non sans vivacité, avec Dalbaran, qui paraissait approuver de la tête. « Que diable peuvent-ils bien comploter ?» murmura Pardaillan, dépité. Oui, c'était surtout cette ignorance des intentions de l'ennemi qui était angoissante. En attendant qu'un indice vînt le fixer, Pardaillan se mit à étudier les toits, et y traduisit son impression. Si nous sommes acculés à fuir par là, nous avons 99 chances sur 100 d'aller nous rompre les os sur le pavé. Oui, mais nous avons une chance de nous en tirer, fit observer Valvert. Évidemment. Si nous ne pouvons pas faire autrement, il faudra bien la courir, cette chance. « Attention, ils entrent dans la maison !» avertit Landry Coquenard. En effet, une vingtaine d'estafiers entraient silencieusement en bon ordre, deux par deux. Rospignac avait pris bravement la tête de ses hommes. Pardaillan et Valvert quittèrent la fenêtre. Landry Coquenard continua de surveiller la rue. « S'ils viennent ici, » fit Pardaillan qui réfléchissait. « La porte ne tiendra pas une minute. »« Nous pouvons nous placer sur l'escalier, » proposa Valvert. « Il n'est pas si large. À nous deux, nous pouvons leur tailler de bonnes croupières. »« Sans doute, mais ils sont trop. Nous finirons par être accablés sous le nombre. »« Et puis, il n'est pas dit qu'ils viennent ici. Qui sait s'ils ne vont pas nous faire sauter ou mettre le feu à la maison, comme vous l'avez dit tout à l'heure, » fit observer Pardaillan. Et, frappant du pied avec colère, « Mort diable, je ne veux pas que Madame Fossa me tue, moi. Plus tard, quand j'aurai ruiné ses projets, cela me sera bien égal. Mais maintenant, au début de la lutte, me laisser supprimer, lui laisser le champ libre, par Pilate, non, ce serait trop bête. Alors, décidez, monsieur. » « C'est tout décidé, partons, » trancha résolument Pardaillan. Il se retourna vers la fenêtre. Il est certain qu'il avait déjà calculé toutes ses chances, envisagé toutes les éventualités et fixé la direction qu'il devrait suivre quand il serait sur les toits, car il prononça « Aucun de ces gens ne se risquera à nous poursuivre sur ce chemin. Il faut être acculé à la mort comme nous pour le faire. Donc, pas d'attaque par derrière à redouter. Donc, je puis sans scrupule passer le premier. » Je le puis d'autant plus qu'on pourrait nous guetter à une de ces lucarnes que je vois par là. Pourquoi, insinua Landry Coquenard, ne pas nous glisser par une de ces lucarnes si nous réussissons à aller jusque-là? Pardaillan le dévisagea. Il était un peu pâle, mais en somme, il ne faisait pas trop mauvaise contenance, le digne Landry. « Crois-tu donc qu'ils ne nous verront pas ? » dit-il avec douceur. « Nous n'aurions fait que reculer pour mieux sauter. » « C'est juste, » reconnut Landry. « Non, » reprit Pardaillan, « il faut, au contraire, éviter les lucarnes que nous trouverons sur notre chemin. Fiez-vous-en à moi et suivez-moi sans perdre pied si c'est possible. » Il dégaina. Valvert et Landry en firent autant. Il enjamba la fenêtre et se laissa doucement glisser dans l'étroite gouttière. Là, l'épée au poing, il fit deux pas dans la direction des Halles et s'arrêta, attendant ses compagnons. En bas, dans la rue, son apparition fut saluée par des clameurs épouvantables. Aux fenêtres, quelques braves bourgeois éprouvèrent le besoin de donner la mesure de leur courage et de leur magnanimité en vociférant « Le voilà ! Le truand se sauve ! Sus ! Arrête ! Arrête !» Presque aussitôt après, Landry Coquenard suivit, et derrière lui, Odet de Valvert parut à son tour. Et cette double apparition, comme la première, fut accueillie par des clameurs sauvages, des hurlements féroces, d'ignobles injures. « En route !» commanda Pardaillan de sa voix brève. Et il partit aussitôt. Les deux autres le suivaient, l'épée au poing, comme lui. Ils marchaient lentement, mais d'un pas ferme. Ils tenaient les yeux fixés droit devant eux, évitant avec soin de regarder le vide et son attirance mortelle. Et alors, un silence haletant s'abattit dans la rue. Pardaillan avançait toujours dans la direction des Halles. Ils avaient déjà dépassé deux ou trois maisons. Tout à coup, il s'arrêta et, sans se retourner, commanda « Halte !» Et tout de suite après, il commanda « Attention, ils vont nous arquebuser. Couchez-vous sur la pente du toit. » En parlant ainsi, il leur donnait l'exemple. Ils l'imitèrent avec toute la promptitude que permettait leur équilibre instable. Au même instant, plusieurs détonations éclatèrent et se confondirent en une formidable explosion. Ils entendirent siffler les balles au-dessus de leur tête et venir s'aplatir avec un bruit sec contre les ardoises dont quelques-unes se détachèrent, roulèrent, tombèrent dans la rue au milieu de l'épais nuage de fumée provoqué par l'explosion. Pardaillan se redressa avec précaution en disant « En route, et ne perdons pas une seconde, car il est probable qu'ils vont recommencer. » Ils repartirent de plus belle. Pardaillan allongeait le pas d'une manière sensible, et les autres, entraînés, faisaient comme lui, sans s'en apercevoir peut-être. Ils firent ainsi une vingtaine de pas. En bas, la meute enragée manifestait son dépit par de nouveaux hurlements. Et ils l'entendaient. Ils entendaient les ordres brefs que les chefs lançaient d'une voix rageuse. Aux fenêtres, le silence continuait à peser. Les badauds féroces qui occupaient ces fenêtres commençaient à sentir confusément la hideur de cette impitoyable chasse à l'homme dans des conditions aussi tragiques et qui n'étaient vraiment pas à l'honneur des chasseurs. Maintenant, ils se sentaient angoissés. Et plus d'un, qui avait stupidement hurlé « à mort » sans savoir pourquoi, se prenait à souhaiter que les trois hardis compagnons échappassent à leurs implacables ennemis. Les trois fugitifs avançaient toujours, lentement mais sûrement. Pardaillan guignait le but qu'il se proposait d'atteindre et qu'il se rapprochait insensiblement. Ce but momentané, c'était la rencontre de deux toits. Cela formait une manière des trois couloirs, à droite et à gauche duquel se dressaient les deux toits aux pentes raides. Ces deux toits constituaient ainsi comme deux garde-fous qui rendaient toute chute impossible. Ils se trouveraient dans un espace étroit, encaissé, mais assez solide, et où ils pourraient évoluer avec assurance, délivrés de cette horrible appréhension d'un faux pas qui pouvait les précipiter dans le vide. De plus, comme il leur fallait tourner à gauche, ils s'éloigneraient de la rue de la Cossonnerie et de ceux qui la gardaient. Ils deviendraient invisibles, on perdrait leurs traces, on ne pourrait plus les arquebuser froidement comme on venait de le faire. En bas, ils comprirent la manœuvre, ils comprirent que leur proie allait leur échapper. De nouvelles vociférations éclatèrent, suivies de nouveaux ordres. Les arquebuses furent rechargées à la hâte. Pardaillan allongea encore le pas, et brusquement, il sauta à gauche, disparut en criant « Vite !» Il se retourna aussitôt. Landry Coquenard paraissait. Il le harponna solidement, le tira à lui, l'enleva, le poussa derrière lui. De nouveau, il allongea les puissantes tenailles qu'étaient ses mains, saisit Odé de Valvert comme il avait saisi Landry, le souleva dans ses bras vigoureux et se laissa tomber à plat ventre en l'entraînant avec lui. Il était temps. Une nouvelle détonation, plus formidable que la première, salua cette prodigieuse retraite qui venait de s'accomplir avec succès et avec une rapidité foudroyante. Lorsque Pardaillan estima qu'il devait être assez loin pour qu'on ne pût pas les voir, il s'assit le plus commodément qu'il put et invita « Soufflons un peu ». Ils s'accommodèrent de leur mieux et ils soufflèrent. Ils en avaient besoin. Ils étaient haletants, livides, hérissés, ruisselants de sueur. Maintenant que la réaction se faisait, ils se sentaient à bout de force. Ils durent s'appuyer les épaules au toit. Et ils restèrent ainsi étendus face au soleil qui les réchauffait de ses rayons bienfaisants. Ils restèrent ainsi un long moment, sans trouver la force de parler, la tête vide de pensées. Ce fut Pardaillan qui, le premier, reprit ses esprits, se secoua, revint au sentiment de la réalité. Et il les galvanisa en disant « Il ne s'agit pas de s'endormir ici. Tout n'est pas dit encore, nous sommes loin d'être hors d'affaire. Ce que nous avons fait jusqu'ici n'est rien, comparé à ce qu'il nous reste à faire. » Ils se redressèrent tous les deux, aussi résolus l'un que l'autre. Ils repartirent, Pardaillan ayant repris la tête. Durant un assez long temps, ils marchèrent facilement et sans risque. Ils tournaient et viraient constamment entre deux toits. Où allaient-ils ainsi et où se trouvaient-ils? Pardaillan le savait, lui, évidemment, mais il ne le disait pas. Quant à Odé et à Landry, leur confiance en lui était telle qu'ils le suivaient sans s'inquiéter que de ne pas tomber et sans songer à poser des questions. Tout à coup, Pardaillan s'arrêta. Ils étaient encore entre deux toits. Mais, à 10 pas devant eux, c'était de nouveau le vide qu'ils allaient trouver. Pardaillan les prévint, et quand nous disons « les », nous nous exprimons mal. Il est certain que ce qu'il en disait, c'était plutôt pour Landry Coquenard qu'il ne connaissait pas suffisamment. Donc, Pardaillan prévint. « Attention, nous allons de nouveau nous engager sur une gouttière. Nous aurons de nouveau le vide à notre droite. Un faux pas, un étourdissement, et c'est la chute, c'est l'écrasement sur le pavé. » Landry Coquenard sentit si bien que c'était pour lui seul qu'il parlait, qu'il répondit, tandis que son maître se taisait. « Je commence à m'habituer au vertige, monsieur. » « En outre, continua Pardaillan, ces loups enragés vont nous voir de nouveau. Ce n'est pas que je craigne leur arquebusade, nous sommes trop loin maintenant, mais c'est que j'aurais voulu leur dissimuler la direction que nous allons suivre. » Et avec un soupir de regret, « Malheureusement, c'est impossible. N'en parlons donc plus. » Il réfléchit une seconde et reprit « Nous allons donc suivre cette gouttière. Elle nous mènera à un toit fort aigu. Ce toit, nous pouvons le longer comme nous allons longer celui-ci. Mais alors, nous reviendrons à la rue de la Cossonnerie où nous finirons par être pris si nous essayons de descendre. Maintenant, retiens bien ceci, » ajouta-t-il en s'adressant directement à Landry. « Si nous parvenons à franchir ce toit, de l'autre côté, nous trouverons peut-être une chance de salut. Note bien que je dis « peut-être », c'est-à-dire que je n'en suis pas sûr du tout. « Franchir ce toit ?» s'inquiéta Landry Coquenard. « C'est qu'il est diablement raide, monsieur. Ce sera miracle si nous ne glissons pas et si nous n'allons pas nous rompre les os en bas. » « C'est à voir, » fit Pardaillan de son air froid. « Si tu ne crains pas de tomber vivant entre les mains de ton ancien maître, retourne sur tes pas, enjambe la première lucarne que tu trouveras et descends te livrer à Concini. Nous deux, Valvert et moi, nous préférons courir le risque de nous rompre les os, ce qui nous arrivera probablement car la manœuvre, difficilement réalisable à trois, devient presque impossible à deux. Décide-toi. » C'est tout décidé, fit résolument Landry. La mort plutôt que de tomber vivant entre les mains de Concini. Aussi bien, monsieur, s'il faut faire le plongeon, peu importe que ce soit ici, là ou ailleurs. » Pardaillan le vit très décidé. Il sourit. « Je vais vous expliquer la manœuvre, » dit-il. Et il la leur expliqua en effet. « C'est compris ? » dit-il en terminant. « C'est compris, monsieur, » répondit Landry. « Tu te sens assez fort, n'est-ce pas ? » « Ne craignez rien, monsieur, je suis plus solide qu'il n'y paraît, » assura Landry. « Allons-y en ce cas, » commanda Pardaillan. « Du sang froid et tout ira bien. » Il repartit en tête. Il s'engagea sur la gouttière, l'allongea, parvint au toit qu'il avait signalé et s'arrêta à l'endroit qu'il s'était fixé. Ils avaient repris leur ordre primitif, Landry au milieu, Odet en queue. Et dès qu'ils parurent, les cris éclatèrent dans la rue, signalant qu'on les avait vus. Heureusement, comme l'avait fait observer Pardaillan, ils étaient hors de la portée des balles. Quand même, quelques coups de feu isolés partirent, poudre brûlée bien inutilement. Pardaillan attendit, immobile, sur le bord du toit, le vide béant à son côté, et où il suffisait du moindre faux mouvement pour qu'il fût précipité. Landry s'arrêta près de lui. Il se courba avec précaution, se coucha sur la pente raide du toit, le dos tourné au vide, les pieds solidement calés dans la gouttière. Quand il se sentit bien d'aplomb, il se raidit de toutes ses forces en disant « Hop !» C'était le signal attendu par Valvert, qui avait dû s'immobiliser comme Pardaillan. Aussitôt, il enjamba les pieds de Landry et se laissa aller doucement à plat ventre sur son dos. Il ne demeura pas là un vingtième de seconde. Il se mit à grimper avec une adresse, une agilité et une légèreté vraiment admirables. Il parvint aux épaules de Landry, sur lesquelles il posa les pieds. Alors Landry leva les mains et le saisit solidement aux chevilles. C'était le deuxième échelon de cette fantastique échelle humaine qui se dressait ainsi sur la pente raide et glissante du toit, au-dessus de l'abîme. Dans la rue, le silence s'était de nouveau abattu. Concini, Dalbaran, Rospignac, tous les autres suivaient des yeux l'effrayante et folle manœuvre, avec certes l'espoir qu'elle aboutirait à une catastrophe, mais non sans un sentiment d'admiration pour les braves qui l'accomplissaient. Se sentant calé, Valvert à son tour lança le signal qu'attendait le chevalier. À son tour, celui-ci répéta, avec autant d'adresse et d'agilité, la même manœuvre. Et il atteignit la crête du toit qu'il dépassait des épaules. Il la grippa, se hissa à la force des poignets, l'enjamba et se coucha à plat ventre dessus, les jambes pendantes de chaque côté. Cela ne lui avait peut-être pas pris une seconde. Il ne s'attarda pas. Il se cala bien, raidit ses muscles et tendit la main à Valvert qui la saisit. Alors Pardaillan, lentement, méthodiquement, sûrement, avec une force que décuplait l'imminence du péril, tira à lui. Il amena Valvert qui traînait après lui Landry Coquenard suspendu à ses chevilles. Les mains de Valvert arrivèrent à la hauteur de la crête qu'elles saisirent. À son tour, et aidé par Pardaillan qui l'empoigna par les épaules, il se hissa à la force des poignets. Landry Coquenard se trouva amené à la portée de la main de Pardaillan. Cette tenaille vivante l'agrippa et ne la lâcha plus. Par contre, il lâcha, lui, les chevilles de son maître, qui se trouva bientôt à cheval sur la crête du toit, et s'écarta pour lui faire place. Landry Coquenard n'eut même pas la peine de se livrer à une gymnastique quelconque. Pardaillan et Valvert, qu'il avait saisi de son côté, l'enlevèrent comme une plume, le couchèrent à plat ventre entre eux. Ils soufflèrent. Oh, pas longtemps, une seconde à peine. Ils recommencèrent tout de suite la manœuvre pour descendre le toit, plus périlleuse, plus difficultueuse, certes, que l'ascension. Seulement cette fois, ce fut Pardaillan qui descendit le premier, se réservant, comme toujours, le rôle qui exigeait le plus de force et d'adresse. Il se suspendit aux chevilles de Valvert, lui-même suspendu aux chevilles de Landry Coquenard, et se laissa glisser jusqu'au chéneau. Ceci n'était rien comparé à ce qui restait à accomplir pour achever heureusement la manœuvre. Landry Coquenard était resté en haut du toit, à la crête duquel il se tenait cramponné des deux mains. Dès que Pardaillan sentit ses pieds bien d'aplomb dans le chéneau, il harponna solidement Valvert, qui lui-même tenait Landry, et il commanda « Hop !» Aussitôt, Landry Coquenard ouvrit les mains et ferma les yeux, sentant très bien que c'était l'instant critique et que leur vie à tous les trois était à la merci d'une défaillance de Pardaillan. Mais Pardaillan soutint le formidable, le surhumain effort sans faiblir. À bout de bras, presque, il amena ses deux compagnons dans le chéneau près de lui. Ils repartirent de plus belle, ayant un peu plus d'assurance, parce qu'il se sentait sur un espace un peu plus large où le faux pas mortel était moins à redouter. Dans la rue, on les avait vus disparaître de nouveau. Mais on voyait bien où ils pouvaient aller, et ça avait été la ruée vers les Halles. Eux, ils n'avaient rien vu. Ils regardaient droit devant eux, sachant bien qu'ils ne pouvaient pas se permettre la plus petite et la plus brève distraction. Mais ils se doutaient bien que la meute allait les atteindre au tournant du chemin. Et il fallait y arriver avant elle. C'est pourquoi ils se hâtaient autant qu'ils le pouvaient. Espéraient-ils encore s'en tirer ? Cette chance unique et problématique dont Pardaillan avait parlé s'offrait-elle à eux, ou bien venait-elle de s'évanouir ? Nous pencherions plutôt pour cette dernière supposition, car ils avaient l'air horriblement déçus et désespérés. Cependant, ils continuaient d'avancer, cherchant nous ne savons trop quoi, espérant peut-être ils ne savaient pas eux-mêmes quel miracle. Tout à coup, Pardaillan s'arrêta, et, avec une voix qui avait des vibrations étranges, il prononça « C'est ici la fin, sautons !» Et ils se lancèrent tous les trois dans le vide. Dans la rue du marché aux Poirées, suivi de sa meute hurlante, Concini, fou de rage en voyant que sa proie venait de lui échapper en se réfugiant dans les bras de la mort, Concini se hâtait d'accourir, voulant au moins se donner la satisfaction de contempler et d'insulter les cadavres de ceux qu'il haïssait d'une haine mortelle. Dalbaran le suivait de son pas tranquille et pesant. Il paraissait satisfait, lui, et il avait lieu de l'être, puisque sa mission était heureusement accomplie. Fausta ne lui avait pas demandé de prendre Pardaillan vivant pour le torturer comme rêvait de le faire Concini. Elle lui avait simplement demandé de le supprimer par n'importe quel moyen. Or, Pardaillan avait sauté du haut du toit, 4 étages. Il était hors de doute qu'il était venu s'écraser sur le pavé. Peut-être n'était-il pas encore trépassé. En tout cas, après une chute pareille, il ne pouvait agoniser longtemps. Dalbaran pouvait dire en toute assurance que sa maîtresse était débarrassée de lui.